Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, un polar humaniste, un livre intime d'un grand chanteur et un parcours en Iran avec la belle surprise de la rentrée littéraire. Negar Javadi a publié à la rentrée son premier roman. Sans projecteur médiatique, sans sélection de prix littéraire, elle a réussi à s'imposer parmi les meilleures ventes en librairie. Désoriental a séduit les libraires en France. Nous verrons si cet auteur d'origine iranienne a séduit les nôtres. Alain Chamfort revient, non pas avec un nouvel album, mais avec un livre intime de souvenirs. Un récit fort, honnête et élégant, Alain Chamfort raconte sa vie comme il ne l'avait jamais fait. Et puis nous serons avec Giuseppe Santoliquido, écrivain belge salué par la critique en Belgique. Il propose une enquête humaniste. Et si nous portions tous un vrai regard sur les miséreux, une façon d'exister humainement et surtout de combattre la précarité.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie, comme toujours. Au Canada, on retrouve Jérémy Laniel de la librairie Carcajou à Rosemère. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous ?
Très bien, vous ?
Ben ça va, écoutez, on vous retrouve dans un court instant pour un gros coup de gueule. On démarre avec un coup de gueule aujourd'hui, hein, n'est-ce pas ? Vous êtes prêts ?
Absolument.
Bonjour Sophie Creuse.
Bonjour Emmanuel,
vous
et
représentez...
bonjour à vos invités.
Bonjour à vous. Vous représentez la Belgique dans la librairie Graffiti à Waterloo. La France est représentée par le méchant Grégoire Courtois, libraire à Auxerre dans la librairie Oblique. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Tout va bien ? Ça commence bien. Pour la Suisse, c'est Laura Sanchez qui est avec nous. Bonjour Laura.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie du Boulevard à Genève. Soyez les bienvenus tous les quatre. On commence, vous le savez toujours, cette émission par une histoire. L'histoire d'aujourd'hui, c'est le prix Nobel de littérature octroyé à Bob Dylan, dont tout le monde parle partout dans le monde. Et Jérémy Laniel, au Canada, vous êtes déchaîné.
Absolument. Coup de gueule, Emmanuel. Coup de gueule à cette trop condescendante dictature du roman, à cette frange littéraire bien-pensante du Québec, de France, d'Amérique, de partout à travers le globe qui a cru bon décrier l'attribution du Nobel de littérature à Bob Dylan. Il faut être de mauvaise foi, Emmanuel, vraiment, pour ne pas voir l'importance capitale des écrits de Dylan sur ses contemporains. Il faut être réfractaire pour sortir l'argument des genres en s'aveuglant de la poésie à même les paroles de Dylan. À tous ceux qui ont grincé des dents au moment de l'annonce, je leur conseille d'écouter Desolation Row de Dylan avec un bon verre de rouge, car s'il n'y a pas là littérature, Emmanuel, en plein cœur de ses chansons, eh bien peut-être sommes-nous déjà en plein cœur de la désolation.
Donc vous êtes pour, finalement. Hein,
c'est, je suis pour compris. Ce prix Nobel, absolument.
Bon, il y a Pierre Assouline, écrivain membre de l'Académie Goncourt, qui a dit « Le nom de Dylan a été souvent cité ces dernières années, mais ça a toujours été pris pour un canular. L'Académie suédoise se ridiculise, c'est méprisant pour les écrivains. » Bonjour Alain Chamfort.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes inspiré, vous, d'un clip de Dylan pour les beaux yeux de l'or, lorsque vous êtes fait virer de votre maison de disques, avec les fameux panneaux, là, comme ça, que vous montriez. Ça vous inspire quoi, ce Nobel, vous ?
Ben, c'est-à-dire que c'est le prix qui a certainement le plus de retentissement dans le monde, alors que ça fasse, ça hérisse certaines vieilles barbes, ça me paraît tout à fait logique. En même temps, je trouve que c'est pas démérité, parce que Dylan, il a quand même une œuvre, il a constitué une œuvre avec toutes ces années. Alors peut-être que ces chansons ont peut-être moins d'impact sur la musique. Peut-être c'est ça qu'on peut mettre en... qu'on peut prendre en considération, mais il n'en reste pas moins que c'est ça, enfin, surtout que ce prix est mérité, voilà, tout simplement.
Bon, il est Irvine Welsh, écrivain écossais, auteur de Trainspotting, vous connaissez évidemment Trainspotting, sur son compte Twitter, qui a estimé que c'était le choix de vieux hippies baragouinants aux prostates rances. Et Annie Ernaux, elle a déploré la dissolution du littéraire. Bonjour Giuseppe Santoliquido.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être dans la librairie francophone. Vous êtes l'un des écrivains belges les plus en vue. On parlera de votre roman humaniste tout à l'heure. Pour ou contre, alors, Dylan, vous ? Le Nobel de Dylan.
Écoutez, moi, j'ai connu une polémique similaire avec Dario Fo.
Oui.
En Italie et en dehors de l'Italie, on disait aussi qu'attribuer le prix Nobel de littérature à un clown et à quelqu'un qui n'était que dans la contestation, ce n'était pas rendre service à la littérature. Je pense que toutes ces discussions sont totalement stériles. Effectivement, Dylan est l'auteur d'une œuvre. Et qu'est-ce que la littérature, si ce n'est, comme disait Sartre, découvrir les plaies du monde ? aller avec ses textes, d'écrire les blessures, les souffrances et les difficultés du rapport à l'autre et au monde. Et c'est ce que Dylan a fait brillamment. Donc je trouve que, effectivement, ce sont des discussions creuses et stériles.
Alors certains s'opposent quand même parce qu'on sait qu'il y a de très nombreux écrivains qui vivent dans la précarité, qui sont de très grands auteurs, qui se font aider par des centres, le Centre National du Livre en France, par exemple, pour pouvoir survivre et qui ont une œuvre considérable. Partout dans le monde, il y a des écrivains opprimés. Partout dans le monde, il y a des écrivains aussi qui portent la littérature et donner près d'un million d'euros, parce que c'est ça, en plus il y a une histoire d'argent à Bob Dylan, ça fait grincer des dents, Grégoire Courtois.
Il les prendra pas, donc c'est pas grave.
Quoi,
pour l'argent, le million.
Oui,
il s'en moque totalement, d'une part. Et deuxièmement, il faut quand même rappeler un petit peu que la littérature est née de la chanson. C'est-à-dire que sans la chanson, aujourd'hui, il n'y a pas de littérature, il y a juste des livres de contes. Il faut s'en souvenir.
Alors, c'est Alain Mabankou qui dit qu'il est très heureux d'ailleurs que la littérature soit reconnue dans la parole. Et il ajoute, Georges Brassens l'aurait mérité aussi.
Oui.
Vous êtes d'accord, Alain Chanfort?
Totalement, absolument.
Bon, voilà. Écoutez, on a fait à peu près le tour, pour au compte. À vous de décider, vous qui nous écoutez. Le prix Nobel, donc, attribué cette année à Bob Dylan. Et bonjour Negar Djavadi.
Bonjour.
Pour ou contre le Nobel de Dylan?
Écoutez, je rejoins un peu ce qui a été dit. Ça fait parler, c'est très bien déjà. Je veux dire, sortir un peu du consensus. Est-ce qu'on l'aurait donné à Asli Erdogan? Peut-être pas. Eh ben, c'était elle qui méritait peut-être pour mettre un coup de projecteur sur sa situation. Si c'est pas elle, ça peut être Dylan, c'est très bien.
On a plein d'autres. On en a cité plein d'autres. Bon, en tout cas, Negar, vous avez publié le roman surprise de cette rentrée littéraire. On en parle très peu dans les médias. Vous n'êtes sur aucune liste de prix. Et pourtant, votre roman Désoriental fait partie des meilleures ventes actuellement en France. Vous êtes porté par les libraires et par le bouche à oreille. Vous êtes d'origine iranienne. Vous arrivez en France au tout début des années 80 pour des raisons politiques, comme plein de vos compatriotes. Et il y a une phrase qui ouvre ce roman, peut-être la phrase de votre père, puisque c'est le père de la narratrice. Il est dans le métro et lui dit « L'escalator, c'est pour eux ». Et le récit commence comme ça.
Absolument. C'est pas la phrase de mon père, mais ça aurait pu tout à fait être la phrase de mon père. Parce que y a, en effet, quand on est exilé, il y a ce respect pour le pays d'accueil, comme il y a cet échec d'être celui qu'on est. Donc, en une phrase... J'avais l'impression que ça résumait en effet tout à fait et ce personnage et l'état dans lequel il se trouvait à Paris.
Alors il y a Kimia, elle est à l'hôpital pour une insémination, une procréation médicale assistée et elle annonce qu'elle va raconter sa vie. Donc c'est ce qu'elle fait sur près de 400 pages. Il y a eu un événement dramatique, mais bien avant cela, il y a eu son enfance, perturbée en Iran. Cette fille n'est pas comme les autres et d'ailleurs son père aurait voulu un garçon.
Absolument. Son père aurait voulu un garçon alors qu'il avait déjà deux filles et il s'en veut de vouloir ce garçon. C'est un intellectuel, c'est un homme qui est en opposition à toutes sortes de pensées établies. Donc le fait d'avoir un garçon en Orient, ce qui tombe sous le sens, parce qu'on préfère avoir des garçons, pour plein de raisons d'ailleurs. Donc il rêve de ce garçon sans pouvoir le formuler et le dire. Sa femme est enceinte, mais tout le monde autour de Sarah, qui est sa femme, pense qu'elle va avoir un garçon. Et l'enfant né, c'est une fille. Donc c'est un premier malentendu qui dessine la suite de la vie de Kimia, la narratrice.
C'est une fille contrariée, c'est ça?
C'est une fille contrariée, voilà.
Un garçon manqué, comme on disait à l'époque.
Et qui sera un garçon manqué, et voilà, absolument.
Sa sœur va la traiter de lesbienne, ce qui est complètement impossible en Iran, on y reviendra tout à l'heure. Et pourtant, la jeunesse aisée de l'époque joue avec les ambiguïtés. On va justement écouter le son du monde, Negar Djavadi, le principe, une musique habillée d'une voix. Cette voix lit un extrait de votre livre. Celui qui a accepté, il est juste à côté de vous, c'est Alain Chanfort. Il va lire un passage essentiel de votre roman, c'est l'un des plus importants, lu sur la musique de la chanteuse iranienne, Gougouche.
تو که گفتی شکسته دل من مگه جامه بلور دل تو به امیدی نشسته دل من مگه سنگ صبور دل تو.
Darius m'acheta un jean et des chaussures montantes. Il me coupa les cheveux lui-même, cira, qu'à peine lavés, ils étaient secs. En d'autres temps, ma tête aurait horrifié à des kilomètres à la ronde. Mais cette année-là, grâce à la célèbre chanteuse de variété Gogoche, apparue un soir à la télévision les cheveux aussi courts qu'un garçon, la coupe Gogouchi devint à la mode. Libérées d'un coup de l'obligation de porter les cheveux longs, les filles faisaient la queue devant les salons de coiffure de Téhéran pour ressortir avec la tête de leurs frères. Il faut dire qu'à cette époque, dans cet Iran américanisé, les repères avaient commencé à s'émousser. Les jeunes, principalement ceux issus de la classe moyenne et aisée, tendaient vers une sorte d'unisexualité universelle. Je sais combien il vous est difficile, au regard de ce qu'est devenu ce pays, d'imaginer cet Iran-là. Cet Iran où les filles portent les cheveux courts et les garçons les cheveux longs, comme Mick Jaggery, ou bien à mi-court, Beatley, où les jeunes s'habillent indifféremment avec des tuniques amples et des pantalons pas de def, et se retrouvent à la tombée de la nuit dans les coins sombres de la ville pour fumer des Marlboro et échanger leur salive.
زمونه به خدا شده بهونه هرچی شد در این میونه میگی تقصیر دله کار دل چه مشکله.
Un extrait de Désoriental, lu par Alain Chamfort. Négard Javadi, très belle lecture, hein, qu'en pensez-vous?
Magnifique.
Magnifique
merci.
Lecture. Oh, je vous en prie. En direct, comme ça, sur le plateau. Effectivement, cette unisexualité, elle est acceptée dans un pays où l'homosexualité est condamnée.
L'homosexualité est condamnée, c'est un immense tabou en Iran, l'homosexualité. C'est même pas condamné, puisqu'on n'en parle pas. C'est aussi simple que ça. En revanche, la transsexualité est acceptée. Mmh. Voilà, donc c'est les paradoxes d'une société iranienne qui a toujours été une société très paradoxale. Et l'homosexualité, la transsexualité fait partie de ces paradoxes.
Il faut choisir, c'est ça. Être transsexuel, c'est possible. D'ailleurs, c'est le pays au monde, après la Thaïlande, où il y a le plus d'opérations de changement de sexe.
Absolument.
Et ça, ça pose de problème à personne en Iran.
Non. Parce qu'il faut être un homme ou une femme.
Voilà.
Donc, une fois qu'on devient un homme, une femme, ça va, on rentre dans les repères établis et on peut continuer à vivre. L'entre-deux, on ne sait pas se dépatouiller avec. Et d'ailleurs, ça pose énormément de questions. Une fois que, si on l'accepte, ça pose énormément de questions. Donc, on préfère ne pas l'accepter, le mettre sous le tapis. Voilà, ça tombe bien. Et voilà, la transsexualité, on l'accepte, mais ça génère d'autres drames, puisqu'il y a énormément d'homosexuels qui changent de sexe pour pouvoir vivre avec la personne avec qui ils sont. Ouais. Donc du coup, ils sont pas transsexuels, ce qui amène d'autres drames. Voilà.
On condamne encore les homosexuels à mort en Iran ?
Absolument. Il y a 2 mois à peu près, il y a un garçon de 19 ans qui a été pendu parce qu'homosexuel.
On estime à 4000 pendus, on les pense sur des grues, c'est ça, en
absolument.
Public.
Et sans doute plus, parce qu'on dit 4000.
Des adolescents, des hommes, des femmes, peu importe.
Toutes sortes de tout âge, femmes, hommes, adolescents, absolument.
Bon, il n'est pas question que de cela dans votre livre. On va aborder d'autres sujets, puisque c'est un roman vraiment choral, qui parle de la Perse, l'histoire de la Perse. Vous allez très très loin, Négard Javadi, vous prenez des risques. 3 libraires ont lu votre livre. France ou Canada, par qui préférez-vous commencer ?
Canada.
Canada, allons-y, Jérémy Laniel.
Oui, Emmanuel, quel touffu premier roman que ce livre de Négard Javadi. Il y a là, une saga familiale, un récit d'immigration et toute l'histoire contemporaine de l'Iran, vous venez de le dire. Elle parvient assez souvent à bien se promener avec le lecteur à travers ses différentes trames narratives, et il y en a plusieurs, mais le risque reste assez présent de le perdre ça et là. Je crois que c'est assez maîtrisé comme premier roman, mais on y voit quand même quelques maladresses. Un désir de trop en mettre, j'ai l'impression de vouloir tout dire en même temps, puis ça peut assommer un peu parfois.
C'est touffu, c'est vrai. Grégoire Courtois, êtes-vous d'accord?
Pas tout à fait, parce que moi, ça fait vraiment partie. Je fais partie de ces libraires français qui, depuis longtemps, vendons et puis défendons ce bouquin, parce que vraiment, c'est un de mes coups de cœur de la rentrée. Je le cache pas depuis très longtemps, parce que, d'après moi, c'est quelque chose qui réussit vraiment à mêler l'histoire intime et l'histoire politique de l'Iran, mais aussi de la France, parce qu'il y a quand même une grosse partie qui se passe en France, qui réussit comme ça avec un personnage à un moment crucial de son existence, qui fait un vrai choix d'enracinement, à poser toutes les questions importantes d'identité, que ce soit en Iran, mais aussi aujourd'hui en France, parce que c'est un roman salutaire aujourd'hui en France, d'après moi, à une époque où des théoriciens du dimanche essayent de nous expliquer ce qu'est l'identité et ce qui ne l'est pas.
Du dimanche, oui. Pour tous et tout ça, tous ces trucs-là qui continuent.
Ce dimanche et les autres, oui.
Voilà. Et qui insultent d'ailleurs les homosexuels au passage.
N'est-ce pas?
Ouais. Alors, je rappelle, si vous rejoignez la librairie francophone, eh bien, que nous sommes avec Négard Javadi pour son roman Désoriental, livre qui crée la surprise, plébiscité, vous venez de l'entendre, par les librairies en France. Sophie Creuse en Belgique. Suivez-vous les avis positifs des libraires français ?
Ah oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec Grégoire. Mais le titre, déjà, est formidable. Hein. Désoriental, ça situe l'enjeu de ce long voyage de dépossession d'une famille, d'une histoire, d'une identité, d'un pays. Et vous pourriez nous emberlificoter dans ces récits bavards, enchâssés les uns dans les autres, avec ces différences de ton et ces apostrophes au lecteur. Mais il n'en est rien. On voit vos personnages et on boit vos paroles. Il y a du roman russe, je trouve, dans votre roman persan, français, belge aussi, qui m'a retenu, surtout parce que vous dites de l'exil, de cette difficulté à refaire du lien autour de soi et en soi.
La vie de nos libraires, Negar Djavadi. Voilà, ça vous va ?
Très bien.
Ça va, ça très, me bien. Va très bien. Alors c'est vrai que dans Désoriental, vous racontez l'histoire de la Perse, les mouvements politiques en Iran. Cela complique un peu le récit, hein, pour être honnête. Cela nous désoriente parfois, autant que vos personnages sont désorientés. Parce que, selon vous, en tout cas d'après votre écriture, tout est en relation, tout est complexe et imbriqué.
Oui, que ça vous désoriente, j'en suis un peu désolée, mais je trouve pas ça plus mal. Ouais. Parce que bon, finalement, l'histoire est compliquée avec un grand H. Ouais. Et les petites histoires aussi. Donc, il faut peut-être être un peu, voilà, bousculé pour y aller et pour l'écouter. Et d'ailleurs, Kimia prend la parole pour ne pas être interrompue, parce qu'elle pourrait l'être interrompue, justement. Elle désoriente un peu, mais l'histoire de l'Iran est extrêmement complexe. L'Iran, c'est un pays géopolitiquement placé d'une certaine manière qui fait que les Occidentaux ont toujours été présents dans ce pays. Donc raconter l'histoire de l'Iran, c'est aussi parler de l'Europe, et encore plus de l'Europe d'aujourd'hui, parce que ce qui s'est passé en 1979... Voilà, donc on ressent les échos tous les jours de ce côté-là du monde.
Mais c'est vrai que l'histoire de cette famille, en quelque sorte, elle regroupe toutes les facettes de l'Iran. Avec cet exil, qui est très compliqué notamment, les parents de Kimia souhaitent retourner dans leur pays. Et c'est très compliqué pour eux. Au fil des semaines, ils s'aperçoivent que ce ne sera pas possible. Et alors il y a la double peine. À la fois le pays d'accueil qui vous regarde de travers, et à la fois la nostalgie du pays.
Le pays d'accueil vous regarde de travers, c'est vrai, mais en même temps, il y avait la francophilie en Iran. Donc, c'était des intellectuels qui adoraient la France et qui, comme beaucoup d'intellectuels iraniens, qui étaient très francophiles et qui tombent dans une réalité, dans la réalité de la France. C'est-à-dire pas une France rêvée, romanesque, pas que le pays des droits de l'homme. Donc, elle les accueille ou pas, d'ailleurs. C'est-à-dire, elle est ce qu'elle est, la France. Et ils viennent, eux, se mettre dans cette France-là. Mmh. Et c'est plutôt les filles qui sont déboussolées, parce qu'elles y ont cru à ces récits. Et d'un coup, elles tombent dans une réalité qu'elles doivent affronter, puisqu'elles vont à l'école. Les parents, pas. Ils ont un peu de distance, il y a un peu de distance entre eux et la société. Mais les filles, là, oui. Ça ne va pas entre elles et les petits camarades, les professeurs, etc. Et puis l'exil, c'est vrai qu'au sens strict du mot, c'est-à-dire ne pas pouvoir retourner chez soi, c'est une chose absolument terrible. C'est une injustice telle qu'il ne faut pas y penser, quoi.
Comment l'avez-vous vécu, cet exil, vous ?
De la même manière, c'est-à-dire moi j'y pense de moins en moins et voilà, je fais ma vie en France et on me dirait va t'installer en Iran que j'irai pas, je pense. Mais c'est vrai que quand on pense qu'il y a des gens qui se donnent le droit de vous interdire de retourner chez vous et au nom de quoi, c'est inimaginable.
La mère de Kimia lui dit un jour, quelle que soit ta vie, débrouille-toi pour faire des enfants. Il faut faire des enfants, tu sais, c'est la seule consolation. Quelle consolation ?
Par rapport à un monde cruel, je ne sais pas s'il y en a d'autres, en fait. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres. J'aimerais bien... Il y a la musique, aussi.
Ouais, ouais. Il y a beaucoup de questions de musique, d'ailleurs. Oui. Alors, c'est pas Alain Chamfort, c'est U2, Tindersticks, PJ Harvey aussi, que vous citez.
Même si moi, j'ai écouté Alain Chamfort, le personnage, écoute, mais moi, il m'est arrivé d'écouter Alain Chamfort. Donc, voilà, donc dans un monde cruel, dans un monde qui ne pardonne rien et qui fait qu'on est en exil ou qu'on meurt sur des bateaux, peu importe, voilà, tous les drames du monde, où trouver la consolation ?
Donc chez les enfants ? Pourquoi chez les enfants ?
Bah parce qu'ils vous déconnectent de tout ça, parce que c'est ce que dit Sarah. Hein. Je me fais porte-parole de ce personnage qui pense que les enfants vous déconnectent, mais c'est un filtre entre soi et la cruauté du monde.
Et on est obligé de se consacrer à eux, donc du coup ça permet aussi d'évacuer des choses.
Ouais. Voilà, et on retrouve un peu d'innocence, un peu de joie de vivre.
On va terminer avec une phrase qui m'a intrigué. L'Iranien n'aime ni la solitude, ni le silence.
C'est ce que vous écrivez, c'est vrai ça?
Mais oui, oui. L'Iranien parle beaucoup, l'Iranien fait beaucoup de bruit, oui, absolument, l'Iranien n'aime pas du tout le silence.
Bon, on va essayer de ne pas mettre de silence dans cette émission. Merci beaucoup Negar Javadi.
Merci à vous.
Désorientale est paru chez Liana Levy, c'est le livre dont tout le monde parle en ce moment. En tout cas, en France, dans les librairies, c'est un livre de libraire, c'est important et c'est pour ça qu'on vous a invité. On salue le travail des libraires au passage.
Moi aussi.
Merci Negar. À suivre les confidences intimes d'Alain Chamfort. J'ai une surprise pour vous Alain, on a retrouvé un medley de deux de vos chansons agrémentées d'une reprise de Claude François, vous vous souvenez de ça?
Ça n'a pas été fait sur France Inter, je pense pas.
Ah non, pas du tout. Ni sur la RTS, ni sur Radio-Canada, ni sur la RTBF.
Ouais.
Non, c'était en 1988.
Ah bon? Ben non, Claude François était mort depuis longtemps.
Au Casino de Paris, mais c'est vous?
Ah c'est moi, pardon.
Ça le fait sourire à la chanson.
Ouais,
tout le monde l'a écouté très attentivement.
J'avais pas entendu ce truc depuis que je l'ai enregistré.
Ouais, ça. Donc un medley d'Adieu bébé chanteur, Madonna, c'est la même chanson sur votre radio francophone. Medley que vous pouvez retrouver sur l'album
Double Vie, je crois.
C'est,
non
oui,
c'est l'album live.
Oui, c'est ça, 1988.
Ouais, absolument.
Bravo Alain.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS, la première.
RTBF, la première.
Ici, Radio-Canada, première.
France Inter.
Toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires. Coup de gueule ou coup de cœur, c'est le principe cette année. On commence dans le rayon des livres de poche avec Laura Sanchez en Suisse. Coup de gueule ou coup de cœur, Laura?
Eh bien, un coup de cœur aujourd'hui, Emmanuel.
Allez-y.
Et si j'en faisais un cri du cœur, je vous dirais encore des nouilles. Parce qu'on n'en a jamais assez, vous êtes d'accord?
Des nouilles?
Ouais, des nouilles.
Quoi, les idiots ou les pâtes?
Non, des pâtes.
Ah, d'accord.
Allez. Parce qu'en fait, je vous parle du livre de chronique culinaire de Pierre Desproges.
Oui.
Ah,
oui.
C'était paru l'année dernière aux Échappées et ça sort maintenant dans une très jolie édition de poche chez Point. Alors, ça cause de cuisine, hein, de bouffe, mais de tant d'autres choses comme Desproges le faisait si bien. Et c'est illustré par Char, Bluse et tous les autres.
Voilà, Char, Bluse, Cabu, Catherine aussi,
ouais,
Rhys, Tinius et Volinsky. Voilà, on pense très fort à eux, évidemment, des amis de la librairie francophone dont, évidemment, on ne se remettra jamais de cette perte-là. Merci beaucoup pour ce coup de cœur, Laura Sanchez. Encore des nouilles aux éditions Point. Dans la catégorie des récits et correspondances, on part en Belgique avec Sophie Creuse. Et c'est un coup de gueule, Sophie.
Oui, enfin, c'est plutôt un malaise que j'éprouve en tant que libraire.
Oui.
Et on ne parle pas de nouilles, mais on parle là des lettres que Mitterrand a écrites à Anne Pinjot. Mmh. Et donc, j'éprouve un malaise vraiment à proposer à la vente l'intimité profonde d'un homme et d'une femme qui, jusqu'ici, avait su la préserver de tout commentaire. Que cette part secrète soit livrée au public me met très mal à l'aise. Mmh. J'aurais préféré, moi, que ces lettres, ce journal, soient accessibles, oui, aux historiens, aux chercheurs, mais restent à l'abri de notre indiscrétion. Alors, la qualité des lettres n'est évidemment pas en cause, elles sont admirables, et l'intérêt ne l'est pas moins. Rien n'est banal ici, à commencer par cet amour rare. Deux êtres se sont rencontrés à tous égards, mais fallait-il nous le faire partager ?
Très bien, c'est la question que vous posez. Effectivement, Anne Pinjot, la femme de l'ombre de François Mitterrand. Lettre à Anne, 1962-1995, aux éditions Gallimard. Merci Sophie.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
On va rester dans l'intimité, Alain Chamfort est dans la librairie francophone pour son livre Intime, anti-biographie musicale, paru au Cherche Midi. Vous êtes un homme pudique, Alain, vous le confiez dès la première phrase. Vous avez cette image réservée, presque effacée. Ce livre qui raconte, presque sans pudeur, sans faux-semblant, c'est une sorte de revanche.
Écoutez, je suis un peu mal à l'aise parce qu'effectivement, je suis pas dans ce monde de la littérature, j'ai pas ma place, quoi. Voilà. Donc, je me sens totalement, comment je veux dire, évidemment parachuté brutalement.
Mais en librairie, vous savez qu'il n'y a pas que de la littérature. Il y a toutes sortes.
Oui,
de
mais
livres.
J'ai
et dans cette émission aussi d'ailleurs. Donc, vous avez votre place ici. Ça, il y a pas de souci.
Enfin, voilà. Disons
rassurez-vous, Alain. Ne soyez pas mal à l'aise.
Je suis mal à l'aise quand même parce que j'ai trop de respect pour la littérature et que je ne suis pas un écrivain. Donc, dans un premier temps, je souhaitais que ce livre soit sur le ton de la parole. C'est-à-dire, j'avais lu Life de Keith Richards et je trouvais ça très bien d'avoir un compagnon qui m'explique à côté, à l'oreille, un petit peu son parcours. Et puis avec la langue française, c'est vachement difficile. C'est-à-dire que d'un seul coup, on manque de vocabulaire, on manque de... Et ça tient pas sur la longueur.
Mais ça ne répond pas à ma question, Alain, si je peux me permettre. Est-ce que c'est une revanche, finalement, d'être comme ça, dans une perspective plus impudique que d'habitude ?
C'est pas une revanche, non. Pour quelle raison? Je n'ai pas de vengeance personnelle à l'égard de qui que ce soit, surtout pas à mon propre égard.
Mais vous n'êtes plus l'homme effacé de l'époque.
Non, parce que justement, en essayant de travailler quand même un petit peu l'écriture, voilà, je pensais que ça permettait d'aller un peu explorer des choses et les expliquer avec une mise en forme malgré
d'accord.
tout. Voilà.
Il y a un épisode de votre enfance que j'imagine il a été difficile de raconter, un épisode qui remonte loin et qui explique selon vous votre personnalité, le goût du silence aussi. Vous aviez 4 ans et vous avez été séparé de vos parents.
Oui.
C'est la première histoire du livre.
C'est la première histoire parce que je pense qu'elle a été certainement déterminante. À 4 ans, j'étais effectivement séparé de mes parents parce que j'avais une santé un peu fragile et qu'à l'époque, il y avait des lieux d'accueil comme ça pour les enfants un peu malades. Et j'avais été à Hendaye, dans un centre qui dépendait des hôpitaux de Paris, pendant 6 mois. Mais à 4 ans, être séparé de ses parents pendant 6 mois, ça paraît déjà une éternité. Mmh. Et ça laisse effectivement des traces certainement profondes parce que je comprenais pas pourquoi j'étais là. Ma mère me manquait terriblement. J'avais ma sœur qui était avec moi, mais on était séparés. On a été pendant, je sais plus, au moins un mois loin l'un de l'autre. Et donc, j'ai senti ce manque profondément et ça m'a certainement poursuivi.
Ça vous a marqué, ouais.
Oui, entre autres, bon, il n'y a pas eu que ça.
Alors, il n'y a pas eu que ça. Non, il y a eu les femmes aussi, hein, Alain Chamfort. Alors, avec les femmes, oh, mais c'est incroyable. Enfin, vous racontez des histoires, vous confiez vos infidélités, emportées comme ça par le tourbillon du succès et du showbiz. Et puis, ce désir de séduire qui finit par vous bloquer. Vous dites que le contrôle de votre image a fini par bloquer, d'une certaine façon, votre personnalité.
Oui, je crois que ça a été aussi un des aspects, dans la mesure où j'ai eu une maman qui était très protectrice et qui avait, dans son souci d'éducation de ses enfants, un besoin de pouvoir être fier d'eux. Alors notamment, il fallait qu'on soit extrêmement bien élevé, bien poli, etc., mais aussi qu'on ait une présentation. Mm-hmm. Des petits, on était très axés sur le physique, sur les apparences. Et puis quand j'ai commencé à chanter, on a fait appel à moi, pas forcément pour ce que je chantais ou pour mes qualités de musicien, parce qu'on ne les connaissait pas, mais plus par rapport à mon physique.
Ouais.
Donc, comme c'était un des aspects que j'avais remarqué qui manquait pas d'impact sur les gens...
Vous étiez fier de vous, quoi.
Non, je n'étais pas fier de moi, mais je me disais, s'il n'y a pas ce physique-là, qu'est-ce qui va rester ? Donc, je m'accrochais à essayer de perpétuer une image qui soit pas décevante pour les gens.
Oui, c'est ça. Et donc, vous êtes devenu narcissique.
Et oui, en quelque sorte, oui.
Complètement.
On peut dire ça, oui, absolument, oui. Donc, en étant mais en même temps contre ma nature, vous voyez,
c'était
un travail que je faisais pour ne pas décevoir à l'extérieur. Quoi.
Alors avec Serge Gainsbourg, par exemple, c'est très étrange, hein, les relations que vous avez avec Gainsbourg. Vous le dites sensible aux beaux garçons. Et d'ailleurs, vous dites à ce moment-là qu'une partie de votre succès repose probablement sur votre physique, ce que vous venez d'illustrer. Et vous racontez comme ça toutes vos collaborations avec Claude François, avec Jacques Dutronc aussi. Avec Dutronc, c'est le début de l'émancipation, hein, parce que vous partez en tournée avec lui, alors que vous avez 17 ans, vous êtes mineur, c'est l'année du bac pour vous. Les parents de Dutronc et les parents Chamfort se rencontrent pour décider de votre avenir. Est-ce qu'il peut partir en tournée avec Jacques ?
Oui, oui, parce que c'est un métier très aléatoire. Donc mes parents étaient absolument inquiets que je commence à essayer de vivre quasiment de cette activité. Et ils voulaient savoir un petit peu ce qu'il en retournait. Et donc ils avaient entendu vaguement parler de Jacques Dutronc, mais ils voulaient savoir s'il était fréquentable. Et donc on a organisé un rendez-vous avec ses parents. Ils se sont rencontrés, ils ont bu un café, ils ont parlé 2 heures. Et puis après, ils m'ont laissé partir avec lui. Quoi. Voilà.
Alors vous dites quand même que c'était un homme manipulateur qui divisait dans le groupe pour mieux régner. Vous écrivez « Au fond de lui, barboté un sale gosse, avide de blagues potaches, de coups tordus et de méchanceté gratuite ».
C'est vrai, oui. Ce qui n'empêchait pas, qui nous fascinait tous, c'est qu'on était totalement en admiration devant lui. Il séduisait tout le monde de cette manière-là. Mais il en reste pas moins qu'il avait une volonté, effectivement, de manipuler les uns et les autres. Nous, on était sa petite cour. Hein, on passait notre vie avec lui, elle l'accompagnait partout. Et il jouait comme ça, d'influence sur l'un, sur l'autre. Enfin, voilà, mais c'était des souvenirs amusants. Mais ça,
il y a une histoire absolument dingue avec Jacques Dutronc. On en parle juste après les libraires qui ont lu votre livre, Alain. Laura Sanchez est en Suisse. Que voulez-vous dire à Alain Chamfort, Laura ?
Eh bien moi, ça m'a vraiment amusé de croiser tous ces grands noms de la chanson et de la scène française. On découvre des facettes moins connues et c'est quand même souvent assez croustillant. Mais il y a une chose, moi, qui m'a gênée dans l'écriture, c'est-à-dire dans l'intention. C'est-à-dire que le récit est franc, mais en même temps, vous vous justifiez ou vous vous excusez de le faire. Et pour moi, c'était un peu dérangeant parce que ce livre n'est pas impudique à aucun moment. Et il me semble qu'il n'y avait pas besoin de s'excuser de le faire tout en le faisant.
Mais il fallait charger comme ça sans s'excuser.
Ouais, exactement.
C'est une façon de voir, oui, Laura. Jérémy Lagnel au Canada.
Oui, ben, ne le prenez pas mal, monsieur Chamfort, hein, mais j'avais aucune idée qui vous étiez avant de me plonger dans votre antibiographie. L'âge oblige.
Non, l'âge oblige quand même.
Ben, c'est vrai, je suis allé très peu souvent au Québec, je regrette d'ailleurs parce que j'aimais bien. Mais la dernière fois que j'ai dû y passer, ça devait être en 1976. Donc,
oui, il n'était pas né, Jérémy.
Voilà.
J'étais pas né.
Allez-y.
N'en demeure pas moins que le projet qu'on ouvre au départ, cette anti-biographie musicale est assez sympathique. Je la conseille à quiconque vous aime bien. C'est un parcours, somme toute, intéressant, mais ça reste tout de même au niveau du retour sur soi. Mais c'est bien ça. Par contre, c'est ça que j'aime bien parce que ça se prend pour rien de moins que ça. Je trouve qu'on n'essaie pas d'en faire un grand ouvrage littéraire ou de penser un petit peu plus haut que quoi que ce soit. C'est vraiment efficace sur l'histoire personnelle.
Voilà, ben écoutez, maintenant, il faut écouter les disques d'Alain Chamfort. Hein,
voilà, c'est cette semaine, je fais ça. Là.
C'est du grand n'importe quoi, Alain Chamfort, à l'époque. Hein. Vous avez failli adopter un bébé guépard avec Jacques Dutronc. Dutronc qui, lui, va adopter le guépard.
Bah lui, il souhaitait que je... C'est-à-dire qu'on était ensemble à ces factoristes, un magasin parisien qui n'existe plus aujourd'hui. Et arrivé dans ce bar, il me propose de partir avec un guépard. J'ai dit, mais en fait, tu ne penses pas, je ne vais pas rentrer chez moi, chez mes parents. En plus, j'habitais encore chez eux à l'époque. Mais c'était parce qu'il voulait justifier le fait d'en acheter un pour lui.
Et il en achète un,
non ? Et il en a acheté deux, non ? Parce qu'on était trois. Bon, là, on était avec un ami photographe qu'il a réussi à convaincre d'accepter de repartir avec un guépard.
Donc le guépard est dans la maison de Dutronc.
Donc le guépard
il s'appelle Sumo.
6 mois.
Dans six mois.
Et pendant les 6 mois qu'on allait chez Jacques, chaque semaine qui passait, le guépard il grandissait de 10 ou 10 cm. C'est-à-dire qu'après, on entrait dans la maison, il se jetait sur nous comme un petit chat, si vous voulez, sauf
qu'il jouait
avec les dimensions que ça fait, de ses griffes. Enfin, il nous laminait les pantalons, il nous enroulait de salive. Enfin, c'était juste une horreur. Quoi.
Et Dutronc l'enfermait dans la salle de bain avec des lapins vivants pour qu'il chasse.
Oui, parce qu'il fallait conserver son instinct de chasseur. Donc, il jetait une poule ou un lapin et il fermait la porte.
C'était complètement fou. Complètement fou. Le succès arrive assez vite hein, pour vous, Alain Chamfort. Il y a ce titre qui va vous faire connaître, c'est Manu Reva, une collaboration avec Gainsbourg, avec qui vous faites le difficile. Hein. Vous dites ces textes ne vous conviennent pas. Le titre, Adieu California non plus, ça marche pas. Quoi. Jusqu'au jour où il vous fredonne Manu Reva au téléphone.
Oui, et il y a eu comme, enfin, j'ai ressenti une satisfaction, quoi. C'est-à-dire que, c'est vrai, les textes doivent effectivement ne pas desservir les musiques, hein. Mm-hmm. C'est quand même la moindre des choses. Donc, et du California n'avait pas ce rôle-là.
Et il vous appelle, et juste au téléphone, vous décrochez, c'est Gainsbourg, et il dit, oui. Manu, 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 Reva.
Voilà, et c'était gagné, oui.
N'en pouvez plus de cette chanson, Alain Chamfort.
Écoutez, non, parce qu'elle a remporté un grand succès, donc c'est toujours agréable. Mais enfin, oui. Bon, effectivement, il y en a d'autres. Quoi.
L'entendre, c'est difficile, ouais. Il y en a une autre qui est bien moins connue que vous devez à Gainsbourg. C'est Baby Lou. Vous vous souvenez de Baby Lou ?
Bien sûr, évidemment.
Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette chanson ?
Elle a été. Elle représente comment ? C'est une chanson, c'est toujours lié à l'époque où on l'a fait, c'est toujours un environnement. Moi, je trouvais que c'était une chanson qui installait une petite ambiance beaucoup plus représentative de ce que je suis, ouais, que Manu Reva ne le faisait par ailleurs, oui.
J'ai compris ta philosophie, Baby Lou, et ta façon de voir la vie, Baby Lou, et pourquoi pas, si c'est ce qui te va, tu n'es pas concerné.
Avec Gainsbourg, c'est la rupture, Alain Chamfort. Hein. Vous n'êtes pas fait pour vous entendre.
Avec Gainsbourg, je m'entendais très bien. Si, c'est avec Gainsbourg, ouais, que je me suis bien,
oui, c'est ça,
bien entendu. Ouais. Oui, avec Gainsbourg, c'était formidable. Mais le jour où le succès est arrivé pour lui, je pense qu'il a assez mal géré. Je pense qu'il n'était pas capable de le gérer, tout simplement. Et que là, il s'est caché derrière ce personnage qu'il a créé, de toute pièce, et qui était un Gainsbourg fait de provocation et de voilà, enfin qui n'était correspondait plus à ce que j'avais besoin, quoi.
Et pourtant il vous rattrape parce qu'il meurt le jour de votre anniversaire.
Oui, étrangement, oui, ouais. c'est tout à fait étrange, ouais, effectivement, ouais. Je sortais de fêter l'anniversaire avec des amis et quelqu'un m'a arrêté pour m'annoncer cette nouvelle.
En disant ce que vous pensez de Jacques Dutronc, de Claude François, on connaît toute l'histoire, hein, donc on va pas revenir sur Claude François. Serge Gainsbourg, on pourrait croire que c'est une façon pour vous, Alain Chamfort, de prendre vos distances, voire d'amoindrir un peu leur collaboration sur vos succès.
Non, je veux pas dire ça. Je pense que c'est des gens qui m'ont, malgré tout, tous les uns avec et les autres, construit. Mmh. Ça a été des étapes dans ma vie. C'était des gens qui m'ont permis d'accéder à d'autres choses. Une profession, quoi. Ouais. Voilà.
Ça vous a donné le courage d'expérimenter après, parce que c'est vrai qu'après l'album Tendre Fièvre, vous avez expérimenté plein de choses. Dont le projet, vous étiez venu d'ailleurs dans la librairie francophone quelques années plus tard, avec le projet sur Yves Saint-Laurent.
Oui, c'est-à-dire que, parce que moi je suis musicien avant tout, donc le fait d'être devenu chanteur c'était un peu le hasard, mais le fait d'être musicien me permet d'avoir une exploration et de continuer à avancer et de prendre du plaisir en écrivant la musique, peut-être davantage que de la chanter, quoi, même.
De Dieu, je vois passer la duchesse de Windsor.
Et vous y allez tout seul, hein, sur ce projet. Personne ne vous suit, les maisons de disques, personne. Vous y allez avec un ami, vous avez ce courage-là. Qu'aimeriez-vous expérimenter aujourd'hui, Alain Chamfort, même si vous dites à la fin du livre que la jeunesse est une manière d'être? Avez-vous encore l'énergie de prendre des risques?
Écoutez, je prends toujours du plaisir à écrire de la musique. Et puis, cette espèce d'inconnu de ce que est en train de devenir ce métier m'intéresse. Il y a une manière autre de s'adresser aux gens, de créer des relations avec le public. Voilà, donc tout ça, c'est un terrain d'investigation qui reste encore à parcourir. Et
vous allez en faire des disques encore ?
Disons que là, je dois un album encore,
oui, c'est ça,
contractuellement.
Oui.
Et puis après, je sais pas, je
d'accord,
sais pas, je
vous continuez dans la musique.
Ah oui, bien
d'accord,
sûr, absolument. Oui.
Bon, vous nous rassurez. Merci Alain Chamfort. Intime, anti-biographie musicale est paru au Cherche Midi. Merci beaucoup Alain.
Merci à vous.
Dans
dans cette plus grande librairie du monde. On termine dans la catégorie des essais avec un coup de cœur du français Grégoire Courtois.
Ben oui, un coup de cœur pour moi et pour peut-être des millions de personnes qui nous écoutent. Oui. Peut-être vous aussi. Est-ce que vous courez, Emmanuel ?
Est-ce que je cours ?
Prenez vos baskets pour aller courir dans
bien
la
sûr.
Rue.
Non, non, plus.
Voilà. Plus,
non,
mais voilà. Mais
j'ai d'autres sports.
Ben il y a des énormément,
on s'en fiche
y a des
un peu,
millions
hein,
de personnes. Oui, ça c'est vrai. Mais bon, c'était mon introduction.
Ah oui, c'est ça. Allez-y, on est à la bourre.
Il y a des millions de personnes qui courent et cet essai dont je vous parle qui s'appelle « Après quoi tu cours ?», c'est un essai de Jean-François Dortier qui est sociologue mais qui touche aussi à plein d'autres sciences, qui va essayer de savoir justement pourquoi on met nos baskets pour aller courir, qui remonte l'histoire du running, comme on dit maintenant, parce que ça vient des États-Unis, et puis qui va aussi chercher de manière un petit peu plus philosophique, est-ce que ça a un sens tout ça. C'est passionnant pour tous ceux qui courent aujourd'hui, et moi je le conseille vraiment. Non mais
ça donne envie, hein.
Ah non mais vous allez voir que c'est un carton de librairie, c'est
ouais,
sûr.
C'est vrai.
Ah ouais, c'est certain.
Le running boom, c'est ça. Après quoi tu cours, donc.
Exactement.
De Jean-François Dortier.
Sous-titré « Enquête sur la nature humaine » parce que c'est ça qui est le plus important.
Vous m'inquiétez beaucoup, Grégoire.
Pourquoi en courant ?
Très bien, merci. La librairie francophone avec Negar Djavadi, Alain Chamfort et Giuseppe Santoliquido. Vous courez, vous ?
Peu.
Peu. Votre personnage court, en tout cas, après une sacrée enquête, oui. Très humaniste. C'est un livre très humaniste.
Oui, effectivement, oui.
Bon, on en parle dans un instant ?
D'accord.
Très bien. On poursuit cette conversation après une curiosité musicale qui rend hommage à la radio. Voici un titre réalisé avec des sons de radio à la Maison de la Radio en France. Écoutez, c'est unique et c'est dans la librairie francophone.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. Avec des gens qui sont intelligents, et moi j'ai pas d'avis parce que je trouve que ça dépend. Je suis passé dans le futur, j'avais trop envie d'y repasser. Je me suis fait plein de contacts, là-bas les gens ont plein de projets, et moi je n'existais plus. C'est pas important. J'ai entendu ta voix dans la radio. Et elle disait: on joue tous la même chanson, mais on la joue pas de la même façon. On écoute tous la même chanson, mais on l'entend pas.
Jacques, dans la radio, titre qui intrigue beaucoup nos invités en plateau. Sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS, et sur France Inter.
La librairie francophone,
Emmanuel Kérad.
Giuseppe Santoliquido est dans la librairie francophone cette semaine pour L'inconnu du parvis, paru chez Genèse Éditions. Alors Giuseppe, vous êtes très apprécié en Belgique. On dit même que vous êtes l'un des grands romanciers actuels. Votre roman est une courte enquête menée comme une fable. Dans une petite ville, un homme s'est suicidé sur l'esplanade de la mairie. C'est un inconnu. On ne sait rien sur lui. Tout le monde est troublé. Qu'est-ce qui dérange la population et les politiques ?
Mais rien, au fond, c'est ça le problème. C'est que rien ne finit par les déranger. Donc il y a effectivement un personnage qui est un mécanicien qui travaille dans un atelier de mécanique, Monsieur Tout-le-Monde. Et un jour, on l'interpelle parce qu'effectivement, un type s'est tiré une balle dans la tête sur le parvis de la mairie, derrière son atelier de mécanique.
Dans une voiture
que lui a vendue. Et c'est le seul indice dont disposent les enquêteurs pour tenter d'identifier le mort, la victime.
Et personne ne se manifeste, personne ne cherche à récupérer le corps. C'est un anonyme dans la définition la plus radicale.
Totalement. Qui est une forme d'aliénation sociale, en fait. Donc, c'est un vrai anonyme, un fantôme.
Voilà.
Un invisible, comme il y en a beaucoup, et personne ne va se soucier de qui est cette personne et pourquoi elle a accompli cet acte. Donc il y a au départ dans le roman, éventuellement une amorce terroriste, puisque évidemment le contexte fait qu'on se demande si ce ne serait pas un acte terroriste manqué, mais ça, cette piste va avorter très vite.
Mais c'est vrai que vous démontrez que dans notre société très organisée, où tout le monde communique avec tout le monde, que certains sont à la marge. On les voit, ils font partie du décor, mais ils n'ont pratiquement aucune existence sociale. Ce sont, vous le dites, des sortes de fantômes. On détourne le regard sur les miséreux par peur d'être entraînés dans leur souffrance. Il y a cette phrase terrible dans votre livre.
Oui, même si je ne réduirais pas ça au... Enfin, ça dépend de ce que l'on met dans le terme miséreux. En fait, je ressens vraiment profondément cela, qu'on devient des fantômes les uns pour les autres. On est tous des miséreux les uns pour les autres, et on a peur d'être entraîné par les souffrances des autres. On a peur d'être entraîné par la vie des autres. Et je trouve que plus le temps passe et plus nous sommes dans des conceptions de vie très très administratives, très très égocentrées comme ça. Et il manque un peu ce que Yves Bonnefoy appelait la poésie fondamentale, c'est-à-dire de percevoir la pleine présence de l'autre, d'établir un rapport de type poétique avec l'autre, c'est-à-dire moi et l'autre, ça ne fait qu'un. Et lorsque l'on comprend cela, je pense que c'est une part du chemin qui peut être faite de manière vraiment fondamentale. Et ne pas comprendre ça, c'est se couper un membre, c'est se couper un bras, se couper une jambe, au fond. Et je pense que c'est ça, les fondamentaux du malaise sont là. C'est-à-dire qu'en nous privant de l'autre, on se prive d'une part de nous-mêmes.
C'est ce qui se passe avec notre
personnage. Et c'est ce qui se passe au départ. C'est le point de départ de ce roman et de cette réflexion que j'ai voulu mener, oui.
Mais porter un regard sur l'autre, parfois, c'est difficile. Il y a de l'empathie, il y a aussi parfois de la pitié. On n'ose pas regarder celui qui est par terre, la main tendue.
Bien sûr.
Parce qu'on se dit, voilà, déjà ça dérange tout le monde, ça dérange de le voir là. Et on a peur aussi de porter un regard de pitié.
C'est ça, il y a de la peur aussi de ne pas regarder le miroir. Enfin, c'est un peu ce que nous disions tout à l'heure avec l'Iran. On parlait du fait que l'image de l'escalator, ce n'est pas pour nous, par exemple. Moi, je viens d'une famille d'immigrés aussi, italiens. Et j'ai remarqué que dans les deuxième, troisième génération d'immigrés, on développe une forme de xénophobie. Et je pense que ce n'est pas la vraie xénophobie, c'est une peur de regarder, de se voir soi-même. On a progressé en deux ou trois générations, on ne veut pas voir là d'où on vient, on ne veut pas voir à quoi on ressemblait, au fond.
On est passé à autre chose, c'est ça?
On est passé à autre chose, et ça nous ramènerait évidemment à nos propres souffrances et à notre condition d'exilé ou peu importe, c'est pas nécessairement un exil de pays, ça peut être un exil, comme disait Annie Laferrière, l'exil de l'enfance, l'exil d'une nostalgie, ce n'est pas uniquement renfermé dans un territoire.
Et on parvient du coup à la honte des origines ou pas?
Oui, absolument. Ah
oui. Oui, vous l'avez connu?
Moi j'ai connu des proches qui changeaient de nom de famille, qui francisaient leur nom de famille. Et qui francisaient non seulement leur prénom, mais également leur nom de famille. Oui. Malgré les cheveux noirs, la moustache noire et le ton basané, mais c'était plus acceptable de franciser le nom. Oui.
Negar Javadi, vous êtes d'accord avec ça?
Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Oui.
Vous avez ressenti cette honte des origines, vous?
Moi, non, j'ai pas ressenti, mais je sais que je connais aussi des gens qui l'ont ressenti et qui le ressentent, absolument. D'autant que, contrairement à vous, quand on est iranien, on rentre aussi dans le côté musulman,
oui, bien sûr,
qui redouble.
Bon, on va voir du côté de nos libraires, Giuseppe Santoliquido, ce qu'ils ont pensé de votre livre Belgique, France. On va commencer par la France, tiens, c'est moi qui décide. Grégoire Courtois, c'est le plus dur de la bande. Commencez.
Moi, effectivement, tout ce dont vous parlez, là, moi, je ne l'ai pas vu dans le livre, en fait. Moi, je trouve que c'est un livre, effectivement, plein de promesses, ça, on est d'accord, mais je trouve que les promesses, elles ne sont pas tenues, parce que ce personnage est assez peu crédible, d'après moi. Il a beaucoup de réactions, notamment, qui sont assez incompréhensibles. Et puis, toute cette quête philosophique sur, parce qu'on parle d'un suicide, quand même, de quelqu'un qui s'est tué, dont je pensais qu'elle allait nous emmener vers des réflexions un petit peu existentielles, je trouve que tout ça est effleuré au profit d'une enquête qui, pour moi, était un petit peu téléphonée, un petit peu convenue. Donc, ce dont vous parlez, qui est absolument passionnant, je ne l'ai pas le vu dans le livre, en fait.
Sophie Creuse, vous n'êtes pas du tout d'accord en Belgique.
Mais alors, pas du tout d'accord. Ça, c'est drôle, parce que c'est tout le contraire. Moi, j'ai senti cette présence, tout ce qu'on vient d'entendre, justement. En plus de l'écriture, j'ai aussi apprécié ce qui sous-tend justement cette enquête à la Simenon dans une cité grisâtre malgré l'été chaud. J'ai été touchée, moi, par la motivation de votre enquêteur occasionnel, son urgence à donner une identité à cette victime anonyme de tous les maux, finalement, de notre monde actuel. Sa sensibilité et puis votre attention aux détails, à la banalité du quotidien, disent que sous cette banalité, eh bien, il y a parfois des héros dont nous ne savons rien et que vous saluez fraternellement.
Antoine va s'approcher comme ça des anonymes, il va porter un regard sur les ouvriers du bas de l'échelle, ceux qu'on ne voit pas, et il va prendre sa vraie dimension humaine. Il dira, vous écrivez, au départ ce n'était personne, maintenant je dirais que c'est devenu un ami, presque un frère, dont j'aimerais remonter la trace.
Tout à fait, oui, exactement, c'est ça. Donc il est saisi par cette présence de l'altérité, et il se lance dans cette enquête, et il veut effectivement faire vivre ces fantômes sur lesquels les regards ne se posent plus, en fait. Donc les restituer au regard et les restituer à la vie.
Lancez-vous un appel, Giuseppe Santoliquido, à tous les citoyens qui passent devant les exclus, comme on dit, pour qu'ils regardent vraiment ces hommes et femmes?
Oui, pour que nous regardions tous, et que nous comprenions que... Moi, je ne connais personne qui vit isolé comme un grain de poussière sur une planète quelque part. Au fond, dès qu'on est au monde, et je dirais même avant, dès qu'on est dans le ventre de notre maman, on est en contact, qu'on le veuille ou pas, avec l'autre, avec le monde. Et donc, cette condition, c'est une condition sur laquelle on ne peut pas revenir. Donc, on ne peut que penser le fait que nous sommes en commun. Hein, Jean-Claude Nancy disait, on est l'un avec l'autre, et c'est l'avec qu'il faut penser. Et c'est à mon avis la réflexion fondamentale que l'on va mener. Ça doit être le point de départ de tout ce qui peut venir se construire par la suite.
Le mot de la fin, c'est pour un libraire. Laura Sanchez en Suisse, c'est vous cette semaine.
Oui, moi j'ai trouvé ce roman accessible et fluide. On se laisse prendre par cette enquête qui est très originale parce qu'elle est en fait un peu vaine. Mais votre personnage en fait une quête philosophique et existentielle et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Pour moi, votre roman défend l'idée qu'il n'est jamais trop tard pour se réveiller à soi-même et à l'autre et qu'en tout temps, on peut devenir acteur de sa vie. Et ça, c'est toujours formidable de le rappeler, je trouve.
Vous avez séduit nos libraires, Giuseppe Santoliquido. Enfin, en tout cas,
deux sur trois.
On va terminer avec cette citation d'Aimé Césaire en exergue que vous reproduisez. Nous sommes ceux qui disent non à l'ombre. Nous savons que le salut du monde dépend de nous aussi. Aimé Césaire. Merci beaucoup, Giuseppe Santoliquido. Votre roman L'inconnu du parvis est paru chez Genèse Éditions. Bonne chance à vous.
La librairie francophone, Emmanuel Guérald.
Avant de conclure, coup de pouce à un artiste francophone. Voici le groupe PNL, véritable sensation hip-hop. Disque d'or en France en moins d'une semaine, près de 4 millions de vues sur Internet.
Dans la tour, je m'appelle. Les cafards, les bacs, les anglais. À l'appel. Aujourd'hui, Hamdoul n'a plus besoin de le faire. Le monde, Chico. Y'a le best tant qu'il est chaud, on va le faire. Amiga, amigo. Pas te dis, au bon char, on y va, on fait pas de caprice, non. Love and peace, sur le terrain, y'a tes yeux, et belle écho glissement. On te rentre dedans, boum, pas ton temps, bref. Allez, file, qu'est-ce que t'as fait le footest? Zing, zing, zang. Hey. J'sors des mots de merde, et tu me payes, pay. La haine sur le maille, ou le zay, la maille, j'vois maille, la maille. Le M en saillant, terre, tu fly, wallah. J'pense moi ça m'arrange. T'as fait ci, t'as fait ça à l'échange. ATT ou loin des
dans la légende, un extrait du nouvel album de PNL, titre que vous pouvez donc retrouver sur internet. Et c'est la fin de cette édition. Toutes les infos sur l'émission, c'est sur le site internet de votre radio francophone. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon avec Philippe Duclos. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France. Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse. René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, Régis Geoffrey, Elisa Sua du Sapin et Michel Serres. Merci pour votre fidélité. Très bonne semaine à vous.